2,000 years ago, the proudest poet was Iwis Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT.
Now here's a message from the Foreign Office for all British nationals in and around Kuwait. Do not go to Kuwait under any circumstances. All foreign nationals in Kuwait have been advised to stay at home or in their hotels. That's the end of that message from the Foreign Office.
D'abord, on pouvait pas le croire. Moi, je regardais CNN et j'ai vu le deuxième avion qui est arrivé. On nous demande d'évacuer le building immédiatement parce qu'ils craignent une attaque sur les Nations Unies elles-mêmes. Il y a tellement, vous pouvez même pas imaginer la panique. Il a vu, il comprenait pas ce qui se passait, l'avion percutait la tour.
Une image, vous le disiez au début de ce journal, hallucinante. On n'aurait jamais pensé voir ça un jour.
Deux avions et l'Amérique.
May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much.
Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency Babylon. Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant.
Histoire d'album.
Allez,
non. Album d'histoire.
Pour le show, hommage à l'art pompier.
Une émission d'Olivier Notal.
Entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.
Pour cet album d'histoire, on va un peu déroger à la règle. Normalement, c'est un album qui est sorti à une année donnée, qui illustre cette année. Cette fois-ci, j'ai un petit peu inversé l'ordre des choses. C'est plutôt un événement qui va donner l'année, et puis on va revenir sur un ensemble d'albums d'une seule personne. Alors Léo Albert Charles-Antoine Ferré, dit Léo Ferré, était né en 1916 à Monaco. Il est mort, on a un clin d'œil, un 14 juillet 1993. C'est pour ça que ça sera l'année 1993 qui va servir de fil directeur. Comment résumer en quelques instants une telle carrière? Ça va être difficile. On va écouter Léo une petite seconde.
Les artistes qui comptent pour moi, ce sont les artistes morts. Depuis au moins 100 ans. Comme ça, on sait qu'ils étaient pas mal, parce que si on en parle encore, c'est bien. Je ne m'intéresse pas trop aux artistes vivants, d'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous savez, je dis toujours que nommez-moi 5 musiciens au 19e siècle. Hein. Grands musiciens. Ils sont arrivés à 5 tout juste. Hein. Et au 20e siècle, il y a Debussy, Ravel, Bartok, Berg et Stravinsky. Ça fait 5. Hein? Aujourd'hui, ils sont 10 000 à Paris. Ouais. La musique contemporaine, vous voyez. Mais le génie, ça court pas les rues. Ah. Et voilà.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme.
Et oui, un immense artiste qui a plusieurs facettes. Alors, on va essayer de voir un peu tout ça. D'abord, Joli Môme, ça sera une des chansons qui va le faire connaître, avec Paris Canaille également. Ce sont des chansons qui sont reprises par des interprètes de l'époque, des années 50. Notamment, il y a Catherine Sauvage qui sera fidèle à Léo. Et puis, la très jolie Juliette Gréco, dont je soupçonne que c'est un peu elle, la Jolie Môme. Alors Léo Ferré s'intéresse très tôt à la musique. Hein. Il a à peine 7 ans qu'il est déjà à la chorale de maîtrise de la cathédrale de Monaco, puisqu'il est monégasque. Il a tous les défauts, hein, c'est Léo Ferré. Il est soprano et c'est vraiment là où il reçoit de très jeune une éducation musicale classique qui va le fasciner. Alors il découvre aussi à travers la radio de ces années, de début de la radio on peut dire, hein, dans les années 30, là, il écoute Beethoven. Et Beethoven, là c'est pour lui, c'est vraiment quelque chose, une révélation. Alors il le dira d'ailleurs dans plusieurs de ses chansons, on en parlera, et notamment dans le célèbre Il n'y a plus rien, il dira Beethoven était sourd. Voilà. Bon. À 9 ans, il va rentrer à un collège Saint-Charles de Bodiguera, tenu par les frères des écoles chrétiennes. Vous voyez le pauvre Léo où il va. On s'étonne après qu'il soit devenu un anarchiste bien connu. Il a passé donc toute sa jeunesse enfermé dans un collège en Italie, pas très loin de Monaco. Donc, il reste en pension plus de 8 ans. Il en écrira d'ailleurs un livre, parce que c'est aussi un auteur. Hein. Il a écrit quelques livres, Léo Ferret, bon, moins connu que ses chansons. Dès cette époque, en cachette, il lit des auteurs qui étaient considérés évidemment comme subversifs par les frères. Les frères ne voulaient pas entendre parler de Voltaire, de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud, de Mallarmé et j'en passe. Ce qui va évidemment entraîner Ferré à adorer tous ces poètes.
Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais... Si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même.
Et oui, ben là c'est les débuts de l'artiste Léo, c'est donc cette fameuse chanson La vie d'artiste, c'est un peu le résumé de ses années, c'est juste avant la guerre, on est en 1935, hein. Il vient à Paris pour y faire ses études de droit, ça l'intéresse que très moyennement, enfin quand même il ressortira avec un diplôme de sciences politiques hein, s'il vous plaît. Mais il va revenir à Monaco, tout ça l'ennuie, il veut de la musique et il n'a pas du tout envie de devenir autre chose qu'un musicien. Il essaye quand même de placer ses petites chansons de temps en temps, même pendant la guerre. Pendant la guerre, il rencontre Charles Trenet, vous savez Charles Trenet qui était un immense chanteur connu à cette époque-là. Il présente même à la star de l'époque quelques-unes de ses chansons. Charles Trenet lui conseille de ne pas les chanter, mais plutôt de se contenter d'écrire pour les autres, ce qu'il fera assez longtemps avant de se décider à prendre les choses en main. À la fin de l'été 1946, Léo Ferré va s'installer à Paris vraiment, et c'est ça le début de la vie d'artiste. Alors ça va être très très dur, il aura beaucoup de mal à s'en sortir, avant de commencer à être connu. Donc, disons que les premières prémices de sa reconnaissance est dès 1947-48, mais bon, c'est surtout au début des années 50. Il faut savoir aussi que Léo était un homme de radio, ça peu de personnes doivent le savoir. Il anime et il produit des émissions de radio sur Paris Inter, donc l'ancêtre de France Inter, depuis 1947. Et il s'est fait connaître donc comme un critique de musique classique, car Léo Ferré est aussi un musicien classique, puisqu'il dirigera des orchestres symphoniques de nombreuses fois. Il s'intéresse à la mélodie, à l'opéra, à l'exotisme. Il détruit déjà tous les bien-pensants avec une ferveur remarquable qui fera qu'il fera paraître aussi retiré de la radio, parce qu'il disait un peu trop de mal de gens qui étaient très bien placés. En 1952, toujours le même, il va se présenter au concours Verdi de la Scala de Milan. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être. Et il écrit pour ce faire la musique et un livret d'opéra. Cet opéra s'appellera La vie d'artiste, justement. Bon, lassé de ne pas déboucher vraiment sur une réussite à ce niveau de musique classique, il va se consacrer à ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire à mettre en musique des poèmes de gens qu'il a aimés, comme on en a déjà parlé, et puis aussi à commencer à produire ses propres chansons en s'accompagnant tout simplement au piano, comme on l'a entendu. Vous allez encore entendre une chanson de Léo Ferré, puis après on va passer à l'année 93.
Pour tout
bagage. On a 20 ans, on a l'expérience des parents. On se fout du tiers comme du quart. On prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie. Cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean. Et pour le reste, on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule. Quand elle est batte, ça va tout seul. Quand elle est moche, on s'habitue. On se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes. On touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions.
Une magnifique chanson de Léo Ferré qui s'appelle 20 ans. Alors, Ferré sera toujours attiré par la jeunesse. Et cette chanson est vraiment le symbole de ce qu'il pense. Oui, on a toujours 20 ans, c'est pas forcément dans le corps, c'est surtout dans la tête, n'est-ce pas? Alors, 1993, l'année de sa mort du vent, puisqu'il s'appelait lui-même Le Vent. Il dit « Je suis un artiste de variété, je suis du vent ». Ça, c'est du Léo tout craché. Alors, donc, au mois de janvier, dans notre France de 1993, qui était présidée par François Mitterrand, il y a une vague de froid qui va causer la mort de pas mal de SDF hein, dans la capitale française. Et on va commencer à s'inquiéter un peu plus du sort de ces gens-là. Mais bon, sans plus, puisque je vous rappelle qu'on est en 2011 et que, bon, je ne sais pas si ça a vraiment évolué beaucoup. Il y a les élections législatives qui se déroulent en mars, entre le 21 et le 28 mars, et qui vont donner une victoire massive de la droite aux élections. Alors, ça va entraîner la deuxième cohabitation avec François Mitterrand. C'est le début du gouvernement d'Édouard Balladur, hein, qui prend effet le 29 mars 1993. Charles Pasqua, entre autres, redevient ministre de l'Intérieur. Au mois d'avril, l'Assemblée, on va dire, droite horizon bleu, et donc très porté par l'UMP de l'époque qui s'appelait le RPR, et ben c'est Philippe Séguin qui est élu à la présidence de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Alors, notre année 93 en France, il y a aussi quelques événements alors, plus légers, on va dire les événements sportifs par exemple. L'Olympique de Marseille devient champion d'Europe de football, mais c'est aussi le début de l'affaire OM Valenciennes, mettant en cause son président de l'époque, un certain Bernard Tapie, ou combien sulfureux. François Mitterrand va se prononcer pour les arrêts des essais nucléaires français. Ça, c'est quand même un tournant dans notre histoire française récente. Et il le fait, devinez-vous quand? Le 14 juillet 1993, le jour où Léo Ferré, chanteur de variété, s'éteint.
Porter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 50 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch and jean fils, et tout le reste je m'en fiche. Ils ont voté, puis après, j'ai la mémoire hémiplégique. Et les souvenirs éborgnés, quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul, les Français. Ils ont voté, et puis après.
Et oui, alors cette chanson avait été écrite en 1968, après les événements de mai, dont Léo d'ailleurs ne sera pas un acteur très important. Il va donner quelques récitals, mais il va surtout se désintéresser un peu curieusement à ces événements de mai 1968. Par contre, il va s'intéresser après à ce qu'ont fait les Français. C'est pour ça cette chanson, ils ont voté après, et puis après, qui fustige le retour de l'ordre moral, etc. Enfin, toutes les habituelles, les choses dont Léo Ferré voulait nous montrer à quel point nous étions frileux et souvent peureux. Quelqu'un va compter énormément dans la vie de Léo Ferré, c'est aussi un monsieur de la musique qui s'appelle Eddie Barclay. Eddie Barclay, c'était ce personnage tout à fait curieux et extravagant quelquefois, qui était à Saint-Tropez souvent et à Paris, et qui fonde une maison de disques à son nom, hein, c'est la maison Barclay, mais c'était surtout d'abord un très bon musicien, ça c'est peu de gens le savent. Et surtout, c'était un découvreur de talent incroyable. Et Eddie Barclay, ben, lui, ce bonhomme, la bourrue, qui gueule un peu tout le temps, qui est contre tout et qui est anarchisant, eh ben, il va le prendre sous sa coupe en disant que moi, cette personne, c'est un immense artiste et j'en fais un de mes grands principaux artistes avec notamment Brel et d'autres. Donc Barclay va modifier un petit peu la vie d'artiste de Léo Ferré en le faisant connaître partout et ça devenir un immense succès populaire. Qui l'aurait cru, parce qu'il faut voir à quoi il s'attaque, Léo Ferré, quand même. Il nous chante des chansons avec des poèmes de Rimbaud ou de Baudelaire, ce qui n'est pas quand même évident, tout à fait. Il fait aussi des disques où c'est de la musique symphonique qui est derrière. Bon, il fait beaucoup de choses très, très, très avant-gardistes, on peut dire. Il psalmodie ses mots comme des poèmes en prose. Enfin, c'est vraiment tout à fait curieux. Et malgré ça, il a un succès fou. Il a un succès fou, même auprès de la jeunesse, et surtout auprès de la jeunesse. Alors, il fait quelques incursions aussi dans le monde de, disons, de la pop musique, entre guillemets, pas vraiment, mais un petit peu. Il s'accompagne d'un groupe qui s'appelle Zoo pour faire un album, qui aura énormément de succès aussi. Et puis, il va, en 1969, enregistrer à New York, et ça, peu de gens le savent, et une version inédite de sa longue, on peut, je ne sais pas si on peut appeler ça une chanson, un poème mis en musique, le sien, qui s'appelle Le Chien. Hein, Le Chien, et ben il le fait avec des musiciens de jazz rock quand même. C'était quand même très osé, et je vais vous donner les noms des musiciens qu'il avait choisis. John McLaughlin, Billy Cobham. Ce sont des gens qui jouent aussi avec le Mahavishnu Orchestra, qui était un des orchestres les plus, enfin des groupes les plus mythiques de cette époque-là. Il aura aussi le bassiste de Weather Report avec lui. Et puis surtout, initialement, cet enregistrement du Chien devait être avec Jimi Hendrix. Mais Jimi Hendrix, malencontreusement, eh ben il est mort. Ça aurait été quand même quelque chose. J'aurais bien voulu avoir Le Chien avec Jimi Hendrix derrière moi. Je pense que ça aurait dû être quelque chose d'assez fantastique. Voilà, donc il n'hésite pas à transgresser les genres. Parce que c'est aussi un chef d'orchestre. Hein. Il dirige plus tard l'Orchestre des Instituts des Hautes Études Musicales de Montreux, en Suisse, l'Orchestre Symphonique de Liège, l'Orchestre Pas de Loup du Palais, etc. etc. À Monaco. Il est aussi avec d'autres musiciens classiques sur certaines de ses adaptations de Norman de Mallarmé. Enfin bref, il a une carrière telle que je ne peux pas vous en rencontrer en quelques minutes. On va revenir à l'année 93 en quelques survols à nouveau. Alors dans le monde, ben il y a George Bush. Alors George Bush, attention, pas le junior, hein, le senior, hein, c'est le père George Bush. Et ben il est encore au pouvoir, mais pas pour très longtemps, hein, puisque c'est une année d'élection. Enfin, c'était l'année précédente qu'il y a eu les élections, mais vous savez, aux États-Unis, on chante jusqu'au mois de janvier les présidents. Donc, George Bush et Boris Yeltsin, ils ont décidé de signer des accords, donc un peu de démilitarisation. C'est un peu la fin, on peut dire vraiment la fin de la guerre froide. À Paris est signée aussi une convention interdisant la fabrication et le stockage de toutes les armes chimiques et prévoyant la destruction de celles-ci avant 1997. Alors, c'est vrai que ça a été fait, mais bon, il y a certains pays qui rechignent. Et notamment Israël, et puis bien sûr quelques pays arabes, et la Chine, enfin bref, les habituels qui se font tirer un peu l'oreille quand il s'agit d'arrêter de produire des armes. On va écouter encore notre Léo, et puis on revient à cette année 1993.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules. Mais la solitude.
Alors on a du mal à couper ce genre de chanson, n'est-ce pas ? Chanson là aussi, je ne sais pas si on peut dire chanson. Je vous conseille de remettre sur vos platines un peu du Ferré, ça ne fera pas de mal aux oreilles. Et c'est toujours très moderne, toujours très 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 moderne. Alors au Proche-Orient, cette année 1993, il y a eu les fameux accords d'Oslo. Le 13 septembre, les accords d'Oslo vont être ratifié à Washington autour du nouveau président des États-Unis d'Amérique. Et c'est donc la poignée de main historique qui va être donnée entre Yasser Arafat et Isaac Rabin. Bon, c'est à Washington et le président des États-Unis, je ne sais pas si vous en souvenez, s'appelle Bill Clinton. C'est le nouveau président des États-Unis, donc un démocrate qui succède à l'horrible George Bush senior. Oh, peut-être pas aussi horrible que son fils, remarquez. Bon, enfin bref, à peu près pareil. Bon, alors ces accords d'Oslo, c'est un immense, on croit, un immense espoir pour enfin trouver une solution entre Israël et ses voisins cousins palestiniens. Alors, Israël s'engage à transférer le gouvernement autonome au reste du territoire situé dans une rive occidentale du Jourdain, peuplée de Palestiniens, etc. C'est la fameuse bande de Gaza et Jéricho qui se met en place. Bon, la bande de Gaza, vous savez où est-ce qu'elle en est de nos jours. Alors, en Europe orientale, c'est donc le grand bouleversement qui se termine, on peut dire. Hein. La chute de l'Union soviétique s'est faite. Maintenant, il y avait la Communauté des États indépendants, la CEI, qui va aussi imploser. Et il y a la scission aussi dans les anciens pays de l'Est. Par exemple, le 1er janvier de cette année 1993, la Tchécoslovaquie disparaît de la carte. Il s'agit maintenant de, comme vous le savez, de la République tchèque et de la Slovaquie. Les premières élections législatives se font aussi dans les pays baltes, hein, Lituanie, Lettonie et Estonie, pardon, se deviennent totalement indépendantes de l'ancien ogre soviétique. Et ben voilà où on en était en 1993. Ferré, c'est aussi évidemment le chanteur engagé, c'est aussi celui qui sait, par ses mots, remuer beaucoup de choses. Alors il y a des chansons mythiques de Léo, alors je vais vous en faire écouter un petit extrait. Ah oui, juste pour revenir, la chanson d'avant, La Solitude, c'était l'album où il était avec le groupe Zoo, hein, le groupe Zoo d'un groupe de rock, hein, rock un peu alternatif, on peut dire de l'époque. Hein. Il était enregistré avec ce groupe Zoo, où il a fait une tournée en France, où il se produisait dans des toutes petites salles. C'était vraiment le but, hein, les petites salles avec ce groupe de rock. C'était tout à fait étonnant. Bon, j'ai eu la chance, moi, de voir ça. Bon. Alors, je vais vous faire écouter une chanson mythique donc de Léo. Vous l'écoutez, puis après, on reviendra en parler un peu avant de conclure doucement cette émission.
Et le remords des coups de jatte, avec la peur du temps la porte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu. Fardeau blême qu'on emballe comme un ballon vers les étoiles et cette rose sans pétale qui tombe froide sur la dalle. Cet avocat à la serviette, ce taupe qui met la voilette pour des larmes.
Alors dans cet enregistrement, il y a deux guitaristes qui vont jouer avec lui. Ce sont un Espagnol et un Argentin, parce que là aussi, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, Léo. C'était le retour après la guerre civile en Espagne de tous les républicains espagnols. Et il s'est lié d'amitié avec beaucoup d'entre eux, donc les anarchistes espagnols, qui étaient, vous savez, ils étaient plus nombreux. Allez savoir pourquoi, comme disait Léo, allez savoir pourquoi il y en a plus en Espagne. Peut-être qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Et là, les deux guitaristes, ben, c'est Paco Ibáñez. Et puis, pour l'Argentin, c'est Cedrón, du Cartero Cedrón. Alors Léo, vous voyez, Léo nous a laissé des petites merveilles de chansons. Il nous a laissé aussi un héritage en nous disant qu'il ne fallait jamais croire que les choses étaient assises. Il avait horreur des assis. Les assis, pour lui, c'était vraiment quelque chose de terrible. Ces gens qui ne bougent pas. L'immobilisme, c'était sa haine de l'immobilisme. Il pensait qu'il fallait toujours prendre des risques. Il en a pris dans sa vie, il en a pris énormément. Il va s'éteindre donc en Toscane, en Toscane, puisque sa mère était italienne. Son père était monégasque, sa mère italienne. Et c'est là qu'il va terminer toute la fin de sa vie, en composant encore énormément de choses, en étant toujours en espèce de perpétuelle ébullition. Dans sa vie, il a aussi beaucoup aimé la Bretagne. Il s'est installé sur une petite île en Bretagne, où il avait trouvé son coin de paradis, comme il disait, avec un singe qui s'appelait Pépé, qui nous a donné une très belle chanson aussi dessus. Il croyait aux hommes, mais s'en méfiait, pourrait-on dire. On va maintenant, pour conclure l'année 93, vous parler un petit peu de la musique, du cinéma, des choses qui se passaient à cette époque-là. En musique, les Grammy Awards, vous savez, c'est les victoires de la musique au niveau international, c'est l'album d'Eric Clapton, celui qui l'a fait unplugged, c'est-à-dire sans musique électrique, qui gagne 6 des Grammy Awards. Dire Straits se sépare à cette époque-là, en même temps de sortir le dernier album où ils sont tous ensemble, c'est On the Night. Alors, ça nous rajeunit pas. Johnny Hallyday fête ses 50 ans en 1993. Silence. Et puis, c'est la première Love Parade à techno. La techno commence à prendre vraiment de l'importance. Ça se passe à Berlin. Berlin, une ville en ébullition depuis que le mur est tombé en 89. En 93, c'est la première techno parade qui en fera beaucoup d'autres. Et voilà. Alors, le groupe qui est un peu à la mode aussi en 93, qui fait une percée tout à fait surprenante et fulgurante, c'est un groupe qui ne va pas durer longtemps à l'affiche, puisque son chanteur va décéder très très jeune, c'est le groupe Nirvana. En cinéma, juste une ou deux sorties, et puis après on revient à Léo. C'est la liste de Schindler, de Steven Spielberg, qui est le meilleur film à Hollywood pour les Oscars. La meilleure actrice, ça sera La leçon de piano de Holly Hunter. Et puis il y a aussi Philadelphia de Tom Hanks, qui est le meilleur acteur. La musique de Philadelphia, c'est fait par Bruce Springsteen. Alors vous voyez, il y avait des gens, tout ça fait qu'on termine avec Léo. Et je vais faire comme faisait Léo, c'est-à-dire les derniers concerts qu'il donnait, il terminait toujours par la même chanson, c'est celle que vous allez entendre en entier, et il demandait au public, avant de commencer cette chanson, de ne pas applaudir.
Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage. Et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume. Pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Il faut que la musique soit humblement mise sous le poème, mais comme des roues humbles d'un véhicule qui apporte la musique avec la poésie dans l'oreille des gens. À vous, vous comprenez? C'est ça qui est important.
She loves you, yeah, yeah, yeah. 2,000 years ago, the proudest poet was he with Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest poet is
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Nous sommes le 21 juillet 1969, il est 2h56 GMT.
Now here's a message from the Foreign Office for all British nationals in and around Kuwait. Do not go to Kuwait under any circumstances. All foreign nationals in Kuwait have been advised to stay at home or in their hotels. That's the end of that message from the Foreign Office.
D'abord, on pouvait pas le croire. Moi, je regardais CNN et j'ai vu le deuxième avion qui est arrivé. On nous demande d'évacuer le building immédiatement parce qu'ils craignent une attaque sur les Nations Unies elles-mêmes. Il y a tellement, vous pouvez même pas imaginer la panique. Il a vu, il comprenait pas ce qui se passait, l'avion percutait la tour.
Une image, vous le disiez au début de ce journal, hallucinante. On n'aurait jamais pensé voir ça un jour.
Deux avions et l'Amérique.
May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much.
Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency, Babylone, Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant.
Histoire d'album.
Allez,
non.
Daily,
album d'histoire.
Show, hommage à l'art pompier.
Une émission d'Olivier Notal.
Entend les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y.